Espace Horizon Inaccessible, émission du 5 septembre 2019. La première question, les Américains sont passés à deux doigts de la catastrophe avec Apollo 13. Est-ce que ça a eu des conséquences sur la suite des missions ?
Oh oui, l'accident d'Apollo 13 a suspendu les missions pendant 9 mois, le temps de corriger les anomalies rencontrées pendant le vol. Conséquence de cet incroyable sauvetage, le public se passionne à nouveau pour les missions Apollo. Alan Shepard, Edgar Michel et Stuart Rosas s'élancent le 31 janvier 1971 à 21h vers le cratère Framoro, qui était la cible d'Apollo 13, dans une région montagneuse au milieu de collines abruptes. Shepard est un vétéran de l'espace, le premier astronaute américain en 1961. Il est en tête pour les programmes suivants, Mercury et Apollo. Mais s'il est sujet à des vertiges et des nausées, dû à des problèmes d'oreille interne, et est déclaré inapte par la NASA. La NASA lui donne alors la responsabilité de décider qui s'embarque sur tel vol, tâche qu'il accomplit avec un surnom peu flatteur, le commandant de glace. Mais en 1969, sa santé s'améliore. Il s'est fait opérer de l'oreille interne et est à nouveau déclaré bon de vol par la NASA. Il se nomme alors responsable d'Apollo 13, à l'encontre de la règle en vigueur, qui ne permet d'être commandant qu'après avoir été la doublure de la mission précédente. Cette initiative ne sera pas appréciée en haut lieu et il est reprogrammé pour le vol suivant, Apollo 14. Ces deux coéquipiers sont des novices, mais ils sont choisis par Shepard pour leurs compétences. Mitchell représente les astronautes auprès du constructeur du LEM, Grumman Aerospace, et un de ses meilleurs connaisseurs. Le 3 février, Shepard et Michel descendent vers la surface lunaire. Un voyant signale que le moteur de descente est prêt, mais pour remonter. Ceci est considéré par les astronautes et la NASA comme un faux signal, et une procédure pour ignorer cette information est programmée en urgence. Puis, à 10 mm, le radar qui doit assurer l'alunissage ne s'est toujours pas allumé. S'il ne fonctionne toujours pas à 3000 mètres, il faudra allumer le moteur de remontée et abandonner la mission. Shepard relance l'interrupteur, rien. Mais 10 secondes après, il se remet en marche. Le LEM est à 5500 mètres. À 3000 mètres, Shepard le bascule en avant et découvre la zone de posée, exactement là où elle est attendue. Voilà Cône Cratère. En plein dans le mille, renchérit Mitchell, au beau milieu de la fenêtre, comme prévu. Comme pour Apollo 12, la dernière partie se fait dans un nuage de poussière. C'est l'image du voyant qui les informe que leur atterrissage a réussi. Shepard désamorce le moteur de descente, configure celui de remontée pour repartir en cas d'urgence. « On est au sol, » déclare Mitchell. « Ok, on a fait un bon alunissage, mais on est un peu de travers, sans doute sur une pente. » Effectivement, si l'impact est à moins de 50 mètres de l'objectif, le gyroscope affiche une pente de 8 degrés, ce qui est beaucoup, et les met sous le risque d'un basculement du LEM. Shepard cède à la tradition de la petite phrase en disant « En posant le pied sur la Lune, la route fut longue, mais on y est enfin. » Et le commandant de glace, en levant les yeux vers le ciel où brille un croissant de terre, se met à pleurer en silence. La première opération est la dépose à la station scientifique ALCEP, à 180 mètres du LEM. Ils font aussi réaliser des expériences de sismologie active. Trois géophones, disposés en ligne, entre 40 et 90 mètres du LEM, vont enregistrer les secousses provoquées par des charges explosives, afin de mesurer l'épaisseur du rigolite, le sol lunaire. Cette première sortie durera 4h30. Puis, pour la deuxième journée de ce troisième alunissage, leur mission est de récolter des roches dans un immense bassin d'impact météoritique, Imbruin. Les géologues espèrent que les astronautes trouveront à la surface de Cône Cratère des roches issues des profondeurs éjectées lors de l'impact. Ils utilisent un chariot du type Golf, le Modularized Equipment Transporter, le MET, pour amener le matériel, ainsi qu'un magnétomètre portable, et réalise des forages jusqu'à 60 cm. Mais leurs déplacements sont compliqués. Le cratère est à 1 km de leur site d'atterrissage. Les cartes ont été établies à partir de photos d'altitude. Et bien évidemment, il n'y a pas de possibilité d'utiliser une boussole sur la Lune. L'évaluation des distances est très compliquée, aucun repère n'étant disponible. De plus, ils marchent vers leur cratère avec le soleil dans les yeux. Au bout d'un moment, Mitchell appelle Houston. Pour toutes les positions que je vous ai données, j'ai de gros doutes à présent. Et la pente raide, 10%, rend difficile le déplacement du MET que les astronautes doivent parfois porter à bout de bras. Fatigués, ils s'arrêtent et leurs pouls inquiète Houston. 150 pulsations par minute. Shepard déclare « Je ne crois pas qu'il nous reste assez de temps pour monter là-haut. » Mais Mitchell insiste. Ils ont une demi-heure de retard sur le planning et Houston les appelle. « Notre équipe de géologues aimerait que vous considériez l'endroit où vous êtes comme le rebord de Cone Crater. » Ce à quoi Mitchell répond « Et moi, je considère que vous êtes des traîtres. » Mais après avoir prélevé un échantillon avec leur marteau sur un gros rocher, ils font demi-tour. Lors d'un débriefing à Houston, ils apprendront qu'ils ne s'étaient pas perdus du tout et qu'ils étaient à moins de 30 mètres du bord du cratère quand ils ont repoussé chemin. Et que ce sont bien des fragments de la roche primitive de la Lune, des éjectas, qu'ils ont récoltés sur les bords du cratère, que les géologues dateront de plus de 4 milliards d'années. Ils récoltent au total 43 kilos de roche, dont un boulet de 9 kilos à lui tout seul. Les deux piétons lunaires vont passer 34 heures sur la Lune, dont 9h23 de minutes d'exploration, et réaliseront deux premières, la pratique du golf, Edward Mitchell ayant porté, en cachette évidemment, deux balles de golf, et s'étant servi d'un fer numéro 6 installé au bout de l'outil à échantillon, en envoie une au plus loin, et Robert Shepard, battant le record du monde du lancer de javelot, se servant du mât du collecteur solaire. Et l'analyse des photos montrera que le javelot et la balle de golf avaient atterri quasiment au même endroit. Autre expérience réalisée par Mitchell, la télépathie. Il a procédé, pendant ses périodes de repos, à une expérience connue. Pensez à cinq images bien précises, un cercle, une onde, un carré, une croix, une étoile, et communiquer par la pensée ces images à quatre correspondants restés à terre, qui devaient les visualiser. Le résultat fut que le taux de réussite de ces communications, 25% d'images notées à terre identiques à celles envoyées par la pensée depuis Apollo, a été légèrement supérieur à un simple résultat du hasard, ce qui aurait donné 20%, encourageant Mitchell à poursuivre ses expériences, mais à terre cette fois. Il décolle de la Lune le 6 février à 19h48, heure de Paris, et leur retour le 10 février à 22h05 ne fera pas l'objet d'une médiatisation particulière. En janvier 2019, des géologues suédois et australiens ont publié dans leur revue Earth and Planetary Science Letters un article où ils faisaient part de leur découverte dans l'échantillon de roche répertorié 14-321-46, soit le 46e fragment de la 321e pierre ramenée par Apollo 14, daté de 4 milliards d'années, d'un petit fragment de roche terrestre. Ce morceau a été éjecté de la surface terrestre lors d'un impact d'un astéroïde, il y a 4 milliards d'années, soit 400 millions après la collision qui a créé la Lune. Après son vol de 61 et son éviction des vols futurs, Alan Shepard, tout en étant le patron du bureau des astronautes, s'est lancé dans les affaires, commerce, banque, immobilier, prospectant pétrolière. C'est un millionnaire qui reprend du service pour Apollo 14. Il quitte la NASA en 74, ainsi que l'US Navy, où il avait le grade de contre-amiral. Il gère ses affaires jusqu'à son décès en 98, à l'âge de 74 ans. Edgar Mitchell était nommé doublure pour Apollo 16, et prend sa retraite en 73. Il fait des conférences sur la place de l'humain dans l'univers et fonde l'Institut des sciences néotiques pour l'étude de la conscience. Il est mort en 2016 à 85 ans. Stuart Rosa a été doublure des équipages Apollo 15 et 16. Il quitte la NASA et l'US Air Force en 76, devient président des bières Coors et crée un fonds d'investissement pour le Moyen-Orient. Il meurt en 1994 à 61 ans. Apollo 15. James Irwin, David Scott et Alfred Worden, entre le 26 juillet et le 7 août 1971, entament la deuxième partie du programme Apollo. Après avoir fait la démonstration de sa capacité à poser des vaisseaux là où elle le voulait, la NASA se lance dans la véritable exploration de la Lune. Le commandant Scott, qui a volé sur Gemini 8 et Apollo 9, est un pilote expérimenté et un passionné de géologie, parcourant de nombreux sites et de montagnes pendant la préparation de cette mission. Il constitue un équipage de scientifiques. C'est aussi lui qui a choisi le site de l'unissage, arbitrant un désaccord entre certains géologues de la NASA. Ce seront les Apennins, des montagnes lunaires près d'un chenal de lave de 130 km de long, 1500 mètres de largeur et 400 mètres de profondeur. Le site de l'unissage se situe entre deux monts, le mont Hadley, de 4600 mètres d'altitude, au nord, et le mont Hadley Delta, 3600 mètres au sud. Le 30 juillet, lors de la descente, le LM Falcon passe entre leurs deux sommets, 1000 mètres en contrebas, avec dans le champ de vision le chenal de lave auprès duquel ils doivent se poser. Dès que la lumière annonçant le contact de la tige située à 1,50 m sous le pied du LEM s'allume, Scott coupe le contact du moteur et le LEM fait 1 mètre en chute libre. Contact, boum, lâche Sherwin, surpris par le choc qui fait vibrer le LEM. « On ne peut pas le nier, ça c'est du contact », rajoute-t-il. Il est 23h16, heure de Paris. Scott passe la tête par l'écoutille supérieure et pendant une demi-heure, il décrit la surface. Puis les astronautes prennent une période de repos. Le lendemain, à 14h50, heure de Paris, ils sortent du LEM. Vient la petite phrase de Scott au moment de mettre le pied sur la Lune. « Alors que je me tiens debout au milieu des merveilles inconnues des monts Hadley, je me rends compte de cette vérité fondamentale de la nature humaine. L'homme se doit d'explorer. Et ici, il s'agit bien de l'exploration à son plus haut niveau. » Beaucoup moins lyrique, Irwin, qui le rejoint 8 minutes plus tard, déclare « Mais c'est magnifique ici, ça me rappelle le Sun Valley. » C'est une station de ski des montagnes rocheuses. Pour mener leur exploration, les astronautes font faire les premiers tours de roue à un buggy lunaire électrique, le LRV, Lunar Rowing Vehicle. D'un coût de 38 millions de dollars, développé par Boeing en 17 mois. Ce véhicule permet, avec sa vitesse de 9 km/h, aux astronautes d'aller beaucoup plus loin autour de leur site d'atterrissage, puisqu'ils feront un parcours de 25 km, s'éloignant jusqu'à 6 km du point d'alunissage. Ils emportent la première caméra couleur du programme, installée à l'avant de la Jeep et commandée depuis Houston. Ils mettent moins d'une heure à préparer le buggy. Ils ont pour consigne de ne pas s'éloigner du LEM à une distance supérieure à celle qu'il leur faudrait pour rentrer au LEM à pied en cas de panne du buggy, tout en tenant compte en permanence de leur réserve d'oxygène, soit 6 heures de marche en début de sortie. Ils vont donc mener leur déplacement en commençant au plus loin et se rapprocher du LEM ensuite. Le buggy enregistre le trajet effectué pour pouvoir revenir sur ses pas ensuite. Mais rouler sur la Lune n'est pas une partie de plaisir. La faible gravité fait rebondir le buggy à chaque bosse, et elles sont nombreuses. La poussière est projetée sur les roues, l'arrière chasse à chaque changement de direction. Ils sont à la recherche de roches constituant la croûte lunaire, des anotorsites, qu'ils ne trouveront pas au cours de cette journée. Ils prélèvent plusieurs échantillons de roches soudées par des impacts, malgré la difficulté de le faire avec leur matos de géologue, de très peu d'efficacité vu la faible gravité lunaire. Ils réalisent un premier forage de 40 cm avant de rentrer à la base, tellement vite que la Jeep fait un tête-à-queue. Et arrivés sur place, ils déploient les instruments de l'ALSEP et font 3 forages de 3 mètres de profondeur, dont 2 serviront à mesurer la chaleur de la croûte lunaire. Ils ont passé, lors de cette sortie, 4h08 sur la Lune. Après un repas et un court repos à bord du LEM, ils repartent pour leur deuxième sortie sur les pentes du mont Hadley, à 5 km du LEM. Entre-temps, Houston a résolu le problème de direction sur le LRV rencontré précédemment. Scott fait les manips demandées et ça marche. À tel point qu'il demandera à Houston comment ont fait les techniciens de Boeing pour venir dépanner le buggy pendant leur sommeil. Ils vont trouver près du mont Hadley les roches recherchées qui seront datées de 4,1 milliards d'années, ainsi que des roches teintées de vert d'origine volcanique, vieilles de 3,3 milliards d'années. Leur fructueuse sortie aura duré 6h51, un record. Leur troisième sortie a pour objectif la faille Hadley, une coupe géologique dans la plaine basaltique où ils récoltent des roches d'impact. La pente du mont Hadley est tellement raide qu'à l'arrêt, Scott est obligé de bloquer le buggy avec son corps pendant qu'Irwin va récolter des roches. Il récolte une roche verte constituée d'une myriade de petites billes vertes riches en magnésium, vertige de cendre volcanique versée par une fontaine de lave il y a 3 milliards d'années. Puis, sur la route, il trouve un petit fragment brillant de la taille d'un paquet de cigarettes qu'Irwin pense identifier comme étant de l'anorthosite, la roche primitive de la Lune, hypothèse confirmée plus tard par les géologues. Ils font aussi un forage de 2 mètres de profondeur, ainsi que le lancement des petits satellites de mesure physique. Ils doublent le temps passé sur la Lune avec 67 heures, donc 18h36 d'exploration en 3 sorties. Au retour, le rover est garé à 160 mètres du LEM, et après avoir fonctionné pendant 15h30 au total, sa caméra filme le décollage du moteur de remontée, le 22 août à 22h05, heure de Paris, laissant la partie du LEM ressemblant à une araignée à la surface. David Scott a déposé sur la Lune une petite statuette en forme humaine, ainsi qu'une plaque donnant les noms de 14 astronautes, 6 Russes et 8 Américains, morts pendant la course à l'espace à cette date. Le séjour sur la Lune a été particulièrement éprouvant pour les deux astronautes. Le travail de géologue demande la manipulation constante d'outils et les gants des combinaisons spatiales ne sont pas souples. Ils ont les doigts noircis d'hématomes. Scott est nommé directeur de la base des pilotes d'Edwards en Californie. Erwin, ayant senti une présence divine à ses côtés pendant cette mission, fonde une association évangéliste, la High Flight Foundation, soutenant les thèses créationnistes. L'univers a été créé en 6 jours, il y a 10 000 ans. Infiniment surprenant pour un scientifique qui a contribué à prouver que le système solaire avait au minimum 4 milliards d'années. Sur la Lune, il avait déclaré « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours de l'Éternel », un passage du livre des Psaumes. Il monte 2 expéditions sur le mont Ararat à la recherche de l'Arche de Noé. Il subit une première attaque cardiaque en 1973, 2 ans après son vol, puis une seconde en 1986 et succombe à la troisième en 1991, à 61 ans. Al Warden est muté au centre Ames de la NASA, qui quitte en 1975 pour prendre la vice-présidence de Goodrich Aerospace. Il tente une carrière politique, mais sans succès. Apollo 16 est une mission similaire à Apollo 15, mais sur un autre site, entre les formations montagneuses Cayley et Descartes, du 16 au 27 avril 1972. On retrouve pour cette mission Kay Mattingly, qui aurait dû être sur Apollo 13, ainsi qu'un véritable vétéran de l'espace, John Young, qui fait là son 4e vol après Gemini 3 et 10, puis Apollo 10, égalant le record de Jim Lovell. Il a déjà frôlé la Lune, et cette fois-ci, il y va pour s'y poser. Ils sont accompagnés par Charles Duke, donc c'est le 1er vol, mais il a été l'interlocuteur de Neil Armstrong lors de la descente vers la Lune. La 5e descente d'un LEM, Orion, vers la Lune n'est toujours pas un long fleuve tranquille. Suite à un problème technique survenu sur un des 2 systèmes d'orientation du LEM, juste après la séparation avec la cabine Casper, au 13e tour de la Lune, la descente est suspendue pendant plusieurs heures. Mais elle reprend normalement après 5 contre-tours et Duke repère le parcours à effectuer pour rejoindre à leur buggy le North Ray Crater dans le site Descartes sur les hautes terres continentales loin des bassins d'impact. Il est rassuré. On dirait qu'on va pouvoir y aller, John. Il n'y a pas trop de blocs rochers. Puis, comme lors du vol précédent, l'Em fera le dernier mètre en chute libre. La poussière retombée, John observe le terrain et déclare « Eh bien, on n'aura pas beaucoup à marcher pour ramasser des caillasses, Houston. On est en plein dedans. » On est le 21 avril, il est 3h23 heure de Paris. Le programme a pris plus de 5 heures de retard. En posant le pied sur le sol lunaire, 14 heures plus tard, le commandant fait une déclaration un peu plus lyrique que les autres. « Te voilà donc, Descartes, site inconnu et mystérieux. Apollo 16 va changer à jamais ton image. » Ce que ne savait pas Young, c'est combien cette phrase était prophétique. Dans les premiers échantillons ramassés, dont un de plus de 11 kilos, il trouve des morceaux qu'il identifie comme venant d'une brèche, et non pas de roches volcaniques. Ils vont tout d'abord déployer la Jeep lunaire, installer la station scientifique ALSEP, puis partir en voiture pour aller vers un cratère de 1,5 km du LEM, avec les mêmes difficultés d'orientation que leurs prédécesseurs. Pour leur 2e sortie, ils vont à 5 km explorer Stone Mountain, c'est le vent de 170 mètres. Et pour la 3e, c'est un cratère d'1 km de diamètre qui est visité, à 5,5 km du LEM. Il est tellement profond que les astronautes ne peuvent pas en apercevoir le fond. Mais cette sortie sera écourtée pour compenser le retard pris à l'alunissage. Ils déposent le 1er télescope installé sur une surface extraterrestre. Charles Duke a laissé sur le sol lunaire une photo de lui avec sa famille. Et John Young a inauguré les grands prix lunaires au volant de la Jeep, poussant la machine jusqu'à 10 000 par heure, soit à 18 km/h, pendant que Mattingly les attend en orbite. Temps passé sur la Lune, 71 heures. Et pendant les 20h14 de leurs 3 sorties, ils vont parcourir 26 km avec le buggy, récolter un record de 96 kg de roches, mais toutes de la même origine. Pas de blocs de lave, même au cours d'escapade à pied au cours du pas de course, à la limite de la réserve en oxygène, sur une pente qu'ils pensent être un ancien volcan, mais qui ne sera qu'un versant d'impact. La caméra du buggy filme là aussi le départ du module de remontée. Des instruments scientifiques montés sur le module de service ont étudié la surface lunaire et leur enregistrement sera récupéré par Mattingly au cours d'une sortie extravéhiculaire. La NASA, pour compenser les problèmes de carence en potassium observés lors du vol précédent, les a surchargés en consommation d'agrumes, à tel point que John Young déclara qu'à son retour, il ne toucherait plus jamais à une orange. Ils amerrissent le 27 juillet à 20h45, heure de Paris. Après Apollo 16, John Young fut le chef des astronautes et assistant du directeur de la NASA. Il sera commandant de bord à bord de Columbia lors du vol inaugural des navettes spatiales en 1981 et fit un autre vol en navette, STS-9, en 1983. Il travaille sur le programme navette jusqu'à son arrêt à la suite des deux accidents, dont nous reparlerons plus tard. Il prit sa retraite en 2004. Il aura passé 34 jours dans l'espace. Il est décédé le 5 janvier 2018 à l'âge de 87 ans, des suites d'une pneumonie. John Duke ne fera que ce vol spatial. Il quitte la NASA pour se lancer dans les affaires. Diriger une fondation pour l'octroi de bourses aux étudiants en sciences et technologies, l'Astronaut Scholarship Foundation, et anime des offices religieux dans les prisons avec le Duke Ministry for Christ. Ken Mattingly suit John Young dans le programme Navette. Il commandera la mission STS-4 en 1982, un autre vol en 1985 et quitte la NASA et l'US Navy en 1985. Il devient responsable de la fusée Atlas chez General Dynamics et chef du projet X-33 chez Lockheed Martin, projet abandonné en 2001. Voyons maintenant Apollo 17. Du 7 au 19 décembre 1972, ce sera le dernier vol vers la Lune. La décision avait été prise fin 1970. Équipage, Eugene Cernan, lançait la troisième mission après Gemini 9 et Apollo 10, où il a frôlé la Lune, Harrison Jack Schmitt et Ronald Warren Evans, à bord du vaisseau America. Harrison Schmitt est un géologue, imposé par la communauté scientifique. Le voyage vers la Lune se passe sans aucun problème, on s'est installé dans la routine, de même que l'alunissage du Dream Challenger. Arrivé salué par un laconique « Ok Houston, l'homme s'est posé ». Ils sont dans un fossé d'effondrement tectonique appelé Torus Litro, choisi par les géologues. Le 12 décembre, après avoir installé la LCEP, ils préparent le buggy et partent vers leur premier objectif, le cratère Steno à 1,5 km. Géologue Schmitt identifie les roches ramassées sur ce qu'il appelle le manteau sombre comme étant du basalte qui sera daté de 3,6 milliards d'années. En remontant dans le buggy, Sanan accroche un garde-boue arrière et le casse. Et cela risque de faire s'accumuler la poussière lunaire sur les équipements, dont les batteries, qui peuvent leur s'échauffer. Il faut donc le réparer. Cette première sortie a duré 6h51. Le 13, à 1h du matin, heure de Paris, leur premier travail est de jouer au carrossier. Ils fixent par des pinces une des cartes de navigation lunaire non utilisées. Et partent vers South Massif, à 9 km de là. Au pied d'un bloc d'avalanche, Schmitt prélève un morceau de roche qu'il écrit comme un beau fragment avec des cristaux semi-arrondis. Le géologue est à son affaire. Il vient de mettre la main sur une roche qui sera datée de 4,47 milliards d'années, issue du fond d'une mer de magma au moment de la création de la Lune. Au cours de cette sortie de 20,5 km et 7 heures, ils vont battre le record de vitesse précédemment détenu par John Young avec 20 km/h. Sur le chemin du retour, au pied du cratère Shorty, Schmitt découvre un sol orange. C'est pour lui la preuve d'une oxydation récente. Ils sont bien à la gueule d'un volcan, et le carottage effectué révèle un échantillon rouge. Cernan, enthousiaste, décrit avec beaucoup de détails ce qu'il découvre, à la plus grande joie des géologues de la NASA et de Schmitt. À l'analyse sur Terre, on attribuera la couleur orange à la présence de petites vies de verre volcanique. Le lendemain, à 0h51 de Paris, pour la dernière sortie lunaire avant très longtemps, ils vont vers le massif nord à 4,2 km, approcher un gros rocher qui a dévalé une pente et prélève des échantillons, ainsi que dans son sillage de près d'un kilomètre de large creusé pendant sa chute. Guerrés sur la pente du massif, ils auront des difficultés à descendre du buggy, puis à y remonter. Ce rocher sera baptisé Tracy's Rock, en l'honneur de la fille de Cernan, âgée de 9 ans à l'époque. Les roches de ce massif datées de 3,8 à 3,9 milliards d'années sont des éjectas produits lors de la formation des deux grands bassins voisins. Cette mission fut la plus longue en présence sur le sol lunaire, 75 heures. En temps passé, à explorer la Lune, trois sorties totalisant 22 heures 4 minutes, dont une de 7 heures 37 minutes, record pour Apollo. En trajet parcouru à la surface lunaire, 35 km, et en s'éloignant à plus de 9 km du module Challenger, et surtout la plus intéressante d'un point de vue scientifique. Il ramène 116 kg de roches lunaires soigneusement sélectionnées au cours d'excursions avec les Jeeps lunaires, soit plus que le total des missions 11, 12 et 14 réunies. Et Schmidt ramène une roche ronde qui sera datée de 4,6 milliards d'années, lors d'une analyse faite en 2008. Pour la petite histoire, les astronautes se sont fait une passe de foot avec cette roche, sans connaître son âge, bien évidemment. Pendant cette dernière sortie, les astronautes enchaîneront ce qu'ils appellent les records olympiques. Ils vont envoyer le plus loin possible un javelot, le manche du collecteur de vent solaire, deux marteaux, un marteau de géologue et le gravimètre, et sauter en hauteur, record de 81 cm établi par Duke. Mais ils chutent en retombant, et sur le dos. Moment d'angoisse, car l'équipement de survie est installé dans le dos de la combinaison, et il n'est pas protégé contre les chutes. Mais, heureusement, rien de cassé. Au pied du LEM, Sanam ramasse un échantillon, une brèche, et le décrit devant la caméra, suivi par le monde entier. Cette roche est composée de nombreux fragments, de toutes tailles et de toutes formes, probablement venus de tous les coins de la Lune, peut-être vieux de milliards d'années, qui ont été assemblés en un bloc soudé, survivant à l'épreuve de l'espace et du temps, un peu comme si ces fragments vivaient ensemble d'une manière très cohérente, très pacifique. Nous espérons que cette roche sera un symbole de ce que nous ressentons ici, un symbole de l'humanité, à savoir que nous pourrons vivre en paix et en harmonie à l'avenir. Puis il dévoile une plaque fixée au pied du LEM et en fait la lecture. Ici, l'homme a achevé sa première exploration de la Lune, décembre 1972 après Jésus-Christ. Que l'esprit des hommes, dans lequel nous sommes venus, se retrouve dans la vie de tous les hommes. Et il complète en improvisant. Ceci est notre plaque commémorative, qui restera ici jusqu'à ce que quelqu'un comme nous, jusqu'à ce que quelqu'un comme vous, vous qui nous écoutez et qui représentez l'avenir, revienne pour la lire à nouveau et reprenne l'exploration en l'esprit d'Apollo. Jens Ernst sera, pour longtemps, le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Avant de partir, il dira « Nous partons comme nous sommes arrivés, et si Dieu le veut, comme nous reviendrons, en paix et avec porteur d'espoir pour le genre humain. » Il n'y aura qu'une expérience qui n'a pas marché, celle prévue pour détecter les ondes gravitationnelles. Une erreur de conception, une pièce trop lourde de 1/10 de gramme, empêchera l'ensemble de fonctionner. Le module de commande tourne encore 2 jours autour de la Lune avant de repartir vers la Terre le 14 décembre. Des instruments scientifiques montés sur le module de service étudieront la surface lunaire et leurs enregistrements seront récupérés par Evans au cours d'une sortie extravéhiculaire de plus d'une heure avant le largage du module. Ils amérissent le 19 décembre 72 à 20h24 de Paris, clôturant le programme Apollo. Grosse différence avec l'arrivée des astronautes d'Apollo 11 sur le Hornet. Ceux d'Apollo 17 sont accueillis par un énorme gâteau préparé par l'équipage du porte-avions Ticonderoga. Mais cette dernière escapade lunaire signifie le licenciement de tous les employés directement liés au programme Apollo, soit plus de 100 000 personnes. À son retour, Sanan fera part de son émotion où il s'est posé sur la Lune. Un silence irréel tomba d'un seul coup. Pas un mot de la part de Jacques, aussi impressionné que moi. Fini la pulsation du moteur. Fini les vibrations. Plus aucun son. Ni chant d'oiseaux, ni chien aboyant au loin, ni même le bruissement du vent. Seul le bruit de ma respiration résonnait dans mon casque, au point que cela me parut tellement inopportun à cet instant magique que je m'arrêtais de respirer. Le silence devint absolu. En lâchant la poignée de commande, je me résolus enfin à le briser. « Ok, Houston, le LEM s'est posé. » Cernan sera la doublure de Slayton pour la mission Apollo-Soyuz en 1975. Puis il partira pour le secteur privé. Il passera le reste de sa vie à promouvoir le programme spatial jusqu'à son décès le 16 janvier 1917, à 82 ans. À une petite fille qui lui demandait ce qu'il avait ressenti sur la Lune, il répondit « Marcher sur la Lune, c'est comme si le Père Noël venait juste d'exercer ton vœu. » Ron Evans a travaillé sur le programme de la navette spatiale, puis est parti dans l'industrie minière. Il est décédé en 90 d'une crise cardiaque à 56 ans seulement. Harrison Schmitt a continué son travail de géologue après Apollo 17. Il va passer 3 ans à étudier les roches ramenées par les missions Apollo. Il va les militer pour une prospection industrielle de la Lune, en particulier pour y exploiter l'hélium-3, qui peut être utilisé dans les réacteurs de fusion nucléaire, comme ITER. Pour avoir une idée de ce que pourrait représenter cette extraction d'hélium-3 de la surface lunaire, il faudrait ratisser 1 milliard de tonnes de minerais, près d'un kilomètre cube, pour obtenir 10 tonnes d'hélium. Ce qui permettrait alors de satisfaire 1/10 de la consommation d'électricité annuelle. Mais le coût de cette gigantesque entreprise n'a pas encore été chiffré. Harrison Schmitt mène aussi une carrière politique, est élu sénateur du Nouveau-Mexique et est toujours conseiller scientifique de la NASA. Il a soutenu Donald Trump en décembre 2017 dans son projet de retour vers la Lune.
Mission Apollo terminée, tu peux nous en tirer un peu le bilan ?
Oui, bien sûr. 12 hommes ont marché sur la Lune entre juillet 69 et décembre 72 pour plusieurs choses. D'abord, relever le défi lancé par John Fitzgerald Kennedy en 1961, tester des méthodes qui seront sans doute exploitées pour les voyages vers des planètes, et par faire la connaissance de la Lune en ramenant 2413 échantillons représentant 380,7 kg de roches lunaires. Ces roches ont été prélevées dans différents bassins, mais cela est bien sûr insuffisant pour définir la géologie complète de notre satellite naturel. Elles ont été réparties dans 126 laboratoires du monde entier et étudiées pendant plus de 10 ans, mais 90% des roches ramenées par Apollo resteront aux États-Unis. En 79, elles ont été transférées dans un nouveau bâtiment du Johnson Space Center, le Lunar Sample Laboratory Facility, où elles sont conservées sous azote. À Houston, on a étudié les effets des roches sur des plantes. Les laboratoires du monde entier peuvent s'adresser au Johnson Space Center pour obtenir un échantillon de roches à fin d'analyse. Un fragment de 183 grammes d'une roche de 2 kg prélevé par Apollo 14 est depuis décembre 1998 exposé à la Cité de l'Espace, à Toulouse. En Europe, 9 autres pierres lunaires sont exposées dans des musées ou des lieux dédiés à l'espace. Et plus proche de nous, une roche de 30 grammes, ramenée par Apollo 11, est en cours d'analyse au laboratoire installé sur le plateau de l'Arbois, près d'Aix-en-Provence. Seuls 2 marcheurs lunaires par marche resteront dans le corps des astronautes. Le chef des missions lunaires, Christopher Columbus Kraft, s'est occupé ensuite à la NASA des centrales solaires orbitales. Il s'est éteint le 22 juillet 2019, quasiment 50 ans jour pour jour après l'alunissage d'Apollo. Courant 1970, devant le peu d'intérêt du peuple américain pour le programme d'exploration lunaire, et victime de restrictions budgétaires, la NASA décide l'arrêt du programme Apollo après Apollo 19. Et l'accident Apollo 13 ayant montré le côté infiniment risqué de ces voyages, les députés américains étaient de moins en moins favorables à les poursuivre. Ce qui fait qu'en décembre 1970, les missions Apollo 18 et 19 sont elles aussi annulées. Les différents composants du programme Apollo déjà construit, Apollo 18 à 20, finiront dans les musées. L'un d'eux servira de base à la station spatiale Skylab. Le suivi des données envoyées par les laboratoires laissés sur la Lune sera stoppé en 1977. Il faut rajouter que, politiquement parlant, les tensions entre USA et URSS avaient considérablement diminué avec la signature des premiers accords de réduction des arsenaux nucléaires SALT 1. Les Soviétiques abandonnent aussi leur programme lunaire pour se recentrer sur l'exploration de l'espace proche avec les stations Salyut. En convertissant les dollars de 1972 en dollars actuels et en comparant le coût du programme Apollo à d'autres dépenses américaines, on voit que la course à la Lune n'a pas été si chère. Les 178 milliards de dollars de 2018 sont à comparer aux 650 milliards de la guerre du Vietnam et aux 2000 milliards de celle d'Irak. 158 milliards, c'est quasiment le montant des intérêts annuels de la dette américaine en 2018. Et depuis, ça a considérablement augmenté. Voyons un petit peu ce qui se passe maintenant, l'après-Lune. En 2009, George Bush père lance les bases de son initiative d'exploration spatiale en déclarant « Cette fois, nous y retournons pour y rester. » Et puis, le grand voyage de demain, un voyage vers une autre planète, une mission pilotée vers Mars. Pourquoi la Lune ? Pourquoi Mars ? Parce que c'est le destin de l'humanité de tenter, de chercher, de trouver. Et parce que c'est la destinée des États-Unis d'ouvrir la voie. Mais il n'y a aucun budget associé, aucun planning. Une étude bâclée chiffre le programme pour mener en 2018 une mission de 30 jours à la surface de Mars. 400 milliards de dollars, 10 fois le programme Apollo en dollars constants. En 2004, George Bush, W, donc junior, lance le programme de retour à la Lune, sa vision pour le programme d'exploration spatiale, nommé Constellation. Il est composé d'une capsule habitée, Orion, capable de transporter 7 astronautes, d'un lanceur léger pour le satellite, Ares 1, d'un lanceur lourd, Ares 5, pour mettre sur orbite le module lunaire Altair, et emmener en 2020 l'équipage et le module autour de la Lune, pour des séjours d'une semaine à plusieurs mois, à la recherche d'eau, dont on vient de trouver des preuves de sa présence au fond de cratère, toujours dans l'obscurité. Mais ce nouveau programme, jugé trop coûteux, est annulé en 2010 par Barack Obama. Seule la capsule Orion sera développée, en vue d'une utilisation dans le programme qui suivra. Et évidemment, le nouveau président, Donald Trump, remet le couvert le 11 décembre 2007, en présence de Buzz Aldrin et d'Harrison Schmitt, avec son Lunar Orbiter Platform Gateway. Et le budget de la NASA est augmenté d'une façon significative, plus de 3,5%, passant à 22 milliards de dollars. Donc 4 milliards pour le programme du lanceur SLS, ainsi que 1,5 milliard de dollars pour le programme du Gateway. En mars 2020, le patron de la NASA, Jim Bridenstine, sous la pression de Donald Trump encore, a déclaré que si le retard dans le développement de la fusée SLS devait se poursuivre, venant de passer de juin à octobre 2020, celle-ci pourrait être lancée par des firmes concurrentes de Boeing, soit par la Falcon Heavy de SpaceX, soit la Delta IV Heavy de United Launch Alliance. Ces 11 tirs en 15 ans ont tous été des succès, plaçant sur orbite de gros satellites américains. Mais dans les deux cas, ces fusées devraient être profondément modifiées pour pouvoir emporter la capsule Orion et des hommes. Un test de sécurité de cette capsule montée sur la fusée SLS a été réalisé le 2 juillet 2019. Une tour d'éjection a arraché la capsule de l'ensemble qui avait lancé la capsule. L'objectif affiché par Donald Trump, poser un Américain et une Américaine sur la Lune en 2024. Pour illustrer la Lune, voir ce qui s'est, quelles ont été les actions qui ont été menées un peu par tout le monde par la suite des missions Apollo, la NASA a mis en 2015 sur son site Flickr 8400 photos de missions Apollo prises en 78 et 2012. Le site sera sur le site de l'émission. Le magazine Time a ouvert aussi un site avec des photos inédites. On peut acheter des éléments de la Lune ou des éléments qui ont servi sur la Lune. Deux maisons de vente ont mis aux enchères des objets provenant des missions américaines et soviétiques. En 2011, un collectionneur a payé près de 3 millions de dollars pour s'offrir une capsule soviétique Vostok. En 2014, un autre a acheté pour 625 000 dollars la montre Bulova portée par David Scott lors de la mission Apollo 15. Cette montre est exceptionnelle, les autres astronautes américains étant habituellement équipés de la Speedmaster d'Omega. Sotheby's, aux USA, a vendu le 20 juillet 2017 pour près de 4 millions de dollars 173 lots lors de la vente Space Exploration, dont 1,8 million pour une pochette ayant contenu de la poussière de lune, ramenée par Neil Armstrong au cours de la mission Apollo 11. La maison Fauve Paris, le 16 septembre 2017, a mis en vente 200 objets liés à la conquête spatiale, dont un morceau de la cabine Spoutnik de Yuri Gagarin. Un lemme en or de 846 grammes, offert par la maison Cartier à chacun des astronautes d'Apollo 11 lors de leur venue en France, a été vendu par Buzz Aldrin en 2017 pour 150 000 dollars. En 2016, le président des États-Unis, Barack Obama, a décoré Margaret Hamilton, créatrice au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, du système des guidages des missions Apollo, soit des milliers de pages de lignes de code. Ce même logiciel a ensuite été adapté aux missions des navettes spatiales. Le milliardaire Jeff Bezos, patron d'Amazon et de Blue Origin, a lancé depuis 2013 un programme de récupération d'éléments Apollo retombés en mer. Ces vestiges historiques sont exposés au Museum of Flight à Seattle, à proximité des usines Boeing. SolidWorks, un logiciel de création d'objets à fabriquer des objets avec des imprimantes 3D, propose comme défi de faire une réplique du module lunaire d'Apollo. Pour le cinquantenaire d'Apollo, il y a eu plusieurs manifestations. Le musée US Space and Rocket Center à Houstonville, en Alabama, a organisé le tir simultané de 5000 fusées le 16 juillet, jour du décollage d'Apollo 11. 4923 ont effectivement pris l'air ensemble. Un astronaute dans l'ISS a affiché le live qui relatait la mission Apollo 11. L'obélisque de Washington a été habillé en Saturne V. Et en ce moment, sur nos écrans, vient de sortir le film Apollo 11. Réalisé à partir d'images 70 mm inédites récemment découvertes et de plus de 11 000 heures d'enregistrement audio, Apollo 11 plonge au cœur de la plus célèbre mission de la NASA et des premiers pas de l'homme sur la Lune. Ce film est un voyage en immersion aux côtés des astronautes et du centre de contrôle de la mission et permet de vivre au plus près les inoubliables journées de 1969 dont on célèbre cette année évidemment le 50e anniversaire. Renseignez-vous auprès de votre salle de cinéma pour savoir où ce film, qui va rester assez peu longtemps sur les écrans, va passer. Giant steps up.
Alors je me fais le relais des questions des auditeurs, puisque les auditeurs envoient des questions sur notre mail à Fréquence Mistral. Alors, pourquoi est-ce que le programme s'appelle Apollo ?
Le nom de ce programme a été donné par Abraham Silverstein, qui était le chef des programmes des vols spatiaux, après avoir été un spécialiste de soufflerie. Il a contribué à améliorer la vitesse des avions après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont atteint des vitesses supersoniques. Pourquoi Apollo ? C'est le nom anglais du dieu Apollon. Et ce programme venait après les programmes Mercury, Mercure et Gemini, les Gémeaux. Silverstein a sûrement voulu garder une touche mythologique à ce programme.
Une question que je relaie par rapport aux auditeurs, elle a souvent été posée cette question. Comment est-ce possible de sortir de la fusée hors de la Terre ?
Alors, pour la fusée, comment est-ce fait pour sortir hors de la Terre ? L'attraction terrestre maintient au sol tous les objets, mais on peut aussi s'en affranchir avec une force motrice suffisante. Les avions décollent grâce à leur moteur, et ensuite ils planent sur l'atmosphère, et les fusées, pareil. Mais la puissance à développer pour s'arracher de l'attraction de la Terre est bien plus importante pour les fusées. Par exemple, les premières fusées américaines, les Redstone, qui ont permis les premiers vols habités en orbite terrestre, avaient une poussée de 35 tonnes. Le premier étage de Saturne V, pour mettre 3 hommes en orbite autour de la Terre, puis en orbite autour de la Lune, fait 3400 tonnes de poussée, et les deux autres étages font 455 et 107 tonnes. Et ça, on a besoin de toute cette puissance pour aller autour de la Lune. Donc vous voyez, on est très très loin d'un moteur d'avion.
Je reformule ma question parce que c'était très drôle, j'ai fait un lapsus, j'ai dit comment c'est possible de sortir de la fusée une fois qu'on est hors de la Terre,
oui, oui.
Alors que c'est comment c'est possible de sortir la fusée hors de la Terre. On est bien d'accord.
On est bien d'accord.
Je suis vraiment un candide. Hein.
J'ai bien répondu à la question, comment on fait pour sortir hors de la Terre.
Dans le prolongement de ces questions, est-ce que tu peux nous parler de la gravité qui joue ?
La gravité, c'est la force qui a été mise en évidence par Newton à l'époque, qui attire deux corps célestes.
La fameuse pomme.
La pomme qui est tombée sur la tête de Newton, que dit la légende. Donc effectivement, deux corps de masse différentes, ou même identiques, sont attirés par la gravité terrestre, par la gravité. Et sur Terre, la gravité, elle fait 9,81 mètres par seconde au carré. Elle est un sixième de ça sur la Lune, un tiers sur Mars. Tout dépend du volume et la masse de l'objet en question. Mais il y a toujours de la gravité. Même les astronautes qui sont en apesanteur, en fait, ils sont en microgravité. On est toujours attiré par quelque chose, où qu'on soit, dans l'univers.
Joli symbole, jolie parabole. Quelles conditions devaient être réunies pour que la fusée soit lancée ?
Alors là, il y a deux réponses. Il y a une réponse générale et une autre ponctuelle le jour du départ. De pouvoir réussir à faire se poser deux hommes sur la Lune et les ramener sains et saufs, il fallait des vaisseaux, et des vaisseaux spatiaux, des fusées, et en la capacité de le faire, il fallait des équipages entraînés, qui avaient passé tous les tests, et Dieu sait s'ils avaient été nombreux. Il fallait avoir réussi toutes les étapes successives qui avaient été définies dans les programmes précédents, Mercury, un astronaute, Gemini, deux astronautes, tourner autour de la Terre, puis celle des programmes Apollo, tourner d'abord autour de la Terre, Apollo 7, Apollo 9, autour de la Lune, Apollo 8, Apollo 10, pour enfin qu'Apollo 11 soit un succès. Ça, c'est de façon générale. Et le jour du départ, il fallait un équipage en forme, une fusée 100% opérationnelle et une météo favorable pour le décollage.
À propos de la forme de l'équipage, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la préparation de Neil Armstrong et le reste de l'équipage pour la mission?
Alors, comme quasiment tous les astronautes, ils ont été recrutés parmi des pilotes militaires qui avaient déjà surmonté les sélections pour devenir pilotes d'avion en réaction, pour certains pilotes d'essai, et accumulé des milliers d'heures de vol en vol et aussi fait des milliers d'heures en simulateur. Puis réussir à franchir une autre sélection encore plus impitoyable au cours de tests de plus en plus difficiles, tant sur les plans techniques que physiques, affronter des situations absolument inimaginables, et tout ça en gardant leur sang-froid et leur capacité à réagir vite et sans faute. Ensuite, apprendre des montagnes de documents techniques pour tout connaître des engins qu'ils allaient avoir à maîtriser et savoir naviguer dans l'espace. Puis, en plus, pour les missions Apollo, apprendre la géologie, car leur mission était de ramener des roches lunaires les plus intéressantes possibles pour les géologues.
Toujours dans la même lignée, la suite sur la question de la préparation de Neil Armstrong et de l'équipage pour la mission. Ils ont mangé quoi dans l'espace? Ils ont bu quoi?
Alors, les premiers astronautes, durant les vols qui duraient que quelques minutes, n'avaient que des liquides à boire. Pour les vols plus longs, on a rajouté des aliments. Aujourd'hui, ils boivent les mêmes choses que sur Terre, avec deux différences majeures. Les produits embarqués sont lyophilisés, pour être plus légers lors du décollage, ou lors des ravitaillements des astronautes qui font des vols de longue durée, parfois plusieurs mois dans la station internationale, à l'exemple de Thomas Pesquet qui a passé 6 mois, ou l'Américain Scott Kelly, 640 jours. Comme ils sont en apesanteur, tout peut s'envoler dans la capsule et aller se mettre n'importe où. Il faut donc que les aliments soient confinés dans des emballages étanches et les liquides sont consommés avec une paille. Si aujourd'hui tout ce que consomment les astronautes est envoyé depuis la Terre, il faudra bien que les habitants des bases lunaires ou martiennes, ou ceux embarqués dans des vaisseaux effectuant de longues traversées, soient autonomes. Aussi, de multiples expériences ont été menées pour voir comment les légumes peuvent pousser en apesanteur. C'est pour ça qu'une fusée Falcon X a mené en novembre 2018 un petit satellite, Eucropis, à 600 km d'altitude, avec pour chargement des serres remplies de plants de tomates. Leur croissance sera observée par 32 caméras et une multitude de capteurs. Comme alimentation, elles auront des nitrates et seront dans le futur produits par décomposition de l'urine des astronautes. Et la sonde chinoise Chang'e 4, qui s'est posée sur la surface cachée de la Lune début 2019, y a fait pousser dans un conteneur des graines de légumes.
Et enfin, dernière question de nos auditeurs. Le voyage entre la Terre et la Lune a duré combien de temps?
Alors, si on prend pour exemple Apollo 8, le premier vol habité par des hommes vers la Lune, leur mise en orbite lunaire s'est effectuée presque 69 heures après le lancement. Et le temps de vol total a été de 146 heures, dont 200 heures passées autour de la Lune. Le retour étant un petit peu plus rapide, le retour sur Terre ne passant pas par une phase en orbite autour de la Terre. Mais pour les autres vols, tout dépend de la distance qui varie continuellement entre la Terre et la Lune. Je crois que le plus long vol pour aller rejoindre l'orbite lunaire, c'est 77 heures.
Je te remercie pour avoir répondu à toutes ces questions très très intéressantes. Et puis, j'envoie notre générique de fin et on te retrouve pour que tu nous donnes le rendez-vous pour la prochaine émission.
Lors de la prochaine émission, je finirai de répondre aux questions des auditeurs sur Apollo et nous verrons quels ont été les programmes spatiaux qui ont suivi Apollo. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois, le jeudi 10 octobre 2019, à la même heure. D'ici là, si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace Horizon Inaccessible sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre, comme vous pouvez venir de l'entendre. Et vous y retrouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission et les précédentes. Cette émission sera disponible sur le site de la radio Fréquence Mistral.com et sera rediffusée le mercredi 23 octobre à 15h. Merci à James pour la technique, à François et à son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.
Très bonne journée sur Fréquence Mistral.